Bonsoir, bienvenue dans votre quinzomadaire radiophonique préféré. Enfin, on vous le souhaite comme un lundi sur deux. La relève, c'est une demi-heure consacrée aux nouveaux talents. Ce soir, on va parler de mouettes et de tanières, mais aussi de géopolitique peut-être. Mon invité est comédien. Mais avant de commencer, qu'avez-vous prévu de faire pour le Festival du Saumon? Rien sûrement, car si vous nous écoutez, à moins que vous nous écoutiez sur Internet, vous n'êtes pas à Ballina en Irlande, là où se déroule le roman dont je vais vous parler maintenant. Dans cette petite ville, il ne se passe pas grand-chose et les jeunes du coin ont pour se divertir le choix entre le pub, les soirées sous substance et un certain ennui qui fait parfois le charme de la jeunesse. Alors quand les frères Ferdia décident d'enlever Dol parce que son frère Cillian a une dette avec un trafiquant de drogue local, rien ne va plus. Pour le planquer, ils vont chez Dev, un garçon très fort physiquement mais qui a été harcelé pourtant durant toute sa scolarité. Orphelin, Dev voit d'un très mauvais œil l'arrivée des deux frères et de leur otage. Cela pourrait être un excellent polar, mais c'est encore mieux que ça. Le roman marque d'abord par sa très grande habileté de sa construction, passant d'un personnage à un autre, mais aussi par des allers-retours entre le temps de l'histoire et le passé des uns et des autres, justement. C'est ce que ça fait un certain temps qu'à Ballina, la vie ne tourne pas toujours très rond. Entre un père parti au Canada, un autre hébergé dans un centre psychiatrique après une tentative d'enlèvement, déjà, sans parler d'un troisième mort d'un cancer après sa femme, ne vous y trompez pas, ce livre n'a pourtant rien de plombant. On y retrouve la vie, avec ses cas-là de triste et de joyeux. Et ce grand premier roman irlandais, son auteur avait jusqu'ici publié seulement un recueil de nouvelles, réussit des portraits de tous ses personnages, tout en nuances, montrant toutes leurs contradictions. Quand on referme ce livre, on n'a qu'un regret. Il s'appelle Fils prodigue, il aurait pu s'appeler Femme de tête, car les vraies héroïnes, ce sont bien les femmes, courageuses, intelligentes, ne baissant jamais les bras, qu'elles s'appellent Sheila ou Nikki. Et oui, Pablo, pour finir, je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas un homme à chien, mais je n'arrive pas à oublier Georgie, la chienne d'un des personnages de ce roman, qui s'appelle Fils prodigue. C'est signé Colin Barrett. C'est publié chez Rivage dans une impeccable traduction de Charles Bonneau. Bonsoir Victor Kirillov.
Bonsoir.
Vous êtes acteur et auteur de Maintenant je n'écris plus qu'en français, un spectacle que l'on peut voir actuellement au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'à la fin du mois de juin, certains jours. Hein, on va dire aux gens d'aller voir sur le site parce que c'est compliqué, ils jouent en mai, c'est certains jours, en avril c'est d'autres jours, ils iront voir. Et je fais le pari d'ores et déjà aujourd'hui qu'on vous verra bientôt ailleurs, après pour ce spectacle en tournée ou pour d'autres spectacles. Vous êtes né à Odessa il y a maintenant 23 ans. Alors qu'est-ce qui évoquait pour vous Paris quand vous aviez 10 ans, 14 ans Est-ce que vous imaginiez un jour être à Paris sur une scène de théâtre?
Bah, pour moi, Paris, ça a toujours été, comme la plupart des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, quelque chose du cosmos, d'inatteignable. Pour nous, c'était, je sais pas, les films avec les Belmondo, la Tour Eiffel, Ratatouille, Zaz, Je veux, tous ces trucs clichés. Mais en même temps, quelque chose de tellement beau que, pour moi, Paris, ça a toujours été quelque chose que je vais passer juste ici comme touriste. Et jamais dans ma vie, j'ai jamais pu imaginer que je vais jouer un spectacle ici.
D'où vous vient votre envie de théâtre? On la sent quand on vous voit sur scène plus forte que tout. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous avez dans les tripes. Ça vous vient d'où?
De mon adolescence. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 14 ans. Là, ça va faire maintenant 10 ans que je fais du théâtre. Je suis toujours jeune, je veux dire.
Ouais, ça va.
J'ai commencé le théâtre quand j'avais 14 ans et...
Vous avez souvenir d'une première fois, d'un spectacle qui vous a dit « c'est ça que je veux vivre dans ma vie »
Pour moi, c'était... Bon, c'est une anecdote assez comique. Pour moi, c'était pas vraiment une émotion forte que j'ai ressentie au théâtre, mais plutôt, une fois, je me suis endormi, j'avais 14 ans, et j'avais fait un rêve dans lequel j'ai vu une comédienne très connue. Et après ce rêve, je me suis réveillé et je suis tombé amoureux de cette comédienne hollywoodienne. Et je me suis dit, il faut que je fasse du théâtre.
Pour c'était la rencontrer quelque...
Oui. Et donc, je suis allé faire du théâtre dans mon lycée, l'option du théâtre. Et c'est là-bas où j'ai découvert plein des textes des auteurs mondiaux. Et là, je suis tombé amoureux du théâtre, justement.
Ah oui, donc c'est un rêve prémonitoire, si on y croit.
Ouais.
Si on revient 5 ans en arrière, donc vous aviez 18 ans,
ouais.
Quelle était votre vie, quelles étaient vos lectures, la musique que vous aimiez écouter Parlez-nous du Victor de 18 ans.
Victor, de 18 ans, c'est un jeune Ukrainien qui venait de rentrer dans une école du théâtre à Moscou et qui adorait le théâtre russe, les auteurs russes, enfin, qui n'imaginait pas sa vie sans faire du théâtre à Moscou. C'était son rêve depuis 5 ans, pour lequel elle a acharné et finalement il a pu l'accomplir, quoi.
Vous rêviez du GITIS, alors je dois mal dire
GITIS,
le nom. GITIS, pardon. Une très grande école de théâtre, hein, si j'ai bien compris, qui est à Moscou.
Exactement.
Ça représentait quoi pour vous?
C'est une école qui est très très connue dans le monde post-soviétique parce qu'en Union soviétique, quand tu voulais faire du théâtre et apprendre la formation des comédiens, forcément, il faut aller à la capitale. Et la capitale de 15 pays soviétiques, c'était Moscou. Et ça, c'était l'une des plus grandes écoles. Il y en a 5 à Moscou. Et ça, c'est l'une des plus prestigieuses. Et donc, ça a resté cette réputation d'une école hyper connue, là où il a enseigné les élèves de Stanislavski, de Meyerhold, qui a carrément travaillé là-bas.
Est-ce que c'est cette école dont... Alors, nous, en France, on nous en parle, je crois. Mais est-ce que c'est celle-là où on apprend... Il y a une espèce de génie dans l'imitation des animaux, non?
Exactement.
C'est celle-là?
Exactement.
Cette méthode-là ou...
Oui, c'est une méthode de Stanislavski, justement. Toute la première année, on joue pas des scènes. C'est complètement le contraire de ce qu'on fait en France. C'est toute la première année, on fait des courtes scènes qu'on invente nous-mêmes, qui comprennent de notre vie. Pour comprendre justement la dramaturgie de la scène, et aussi on fait plein des imitations des animaux, des choses, des objets physiques notamment. Par exemple, là je parle au micro, je peux faire
un micro.
Oui, je vais créer une scène de micro.
C'est vraiment dommage qu'on soit à la radio, sinon je serais demandé de le faire.
Exactement. Ouais. Et donc voilà.
Alors votre histoire personnelle a rencontré l'histoire avec un grand H, l'histoire tout simplement. Mmh. Et c'est en partie le sujet de votre pièce, mais je vous laisse la raconter. Là, on a déjà un peu commencé,
ouais.
mais je vous laisse le faire. Racontez-nous l'argument de votre pièce, le point de départ.
Donc oui, comme on a déjà abordé ces sujets, je suis ukrainien qui est allé faire ses études du théâtre à Moscou, qui rêvait de faire du théâtre à Moscou. J'étais passionné par cette culture, par ces auteurs et par cette école du théâtre, justement. Enfin, école avec un grand E, je veux dire.
D'un seul coup, quand la guerre éclate, en fait, ouais. C'est tout votre monde qui s'effondre.
Exactement. Enfin, c'était un événement qu'on... Enfin, comme avec toutes les guerres. Enfin, on attend, on croit pas jusqu'au bout. Et quand ça arrive, c'est quelque chose qui arrive comme ça et casse tout, en fait. Et donc, ça a complètement bouleversé ma vie, cet événement. Mais parce que, enfin, toute ma famille, elle était en Ukraine, justement. Moi, j'étais juste étudiant à Moscou. Et d'un coup, toute ma même vision de cette vie moscovite que je menais, elle a complètement changé. Enfin, mes copains qui étaient hier mes copains de toujours, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai joué, ils sont devenus carrément, enfin, mes ennemis, et pas, enfin, mode, dans le sens absolu de ces mots, ennemis, parce qu'ils sont russes. Et moi, je suis ukrainien. Et c'est quelque chose d'inexplicable. C'est quelque chose en fait, je peux plus être là. Je peux plus leur parler. Je peux plus être là. Et avec cette notion de la guerre, j'ai complètement revu toute ma position dans cette vie en Russie, en tant qu'artiste. Et en fait, j'ai vite senti la culpabilité envers... tout mon pays, tout mon peuple. Et...
En voyant votre spectacle vendredi dernier, c'était la première,
ouais.
J'ai eu l'impression, donc en le voyant, que cette guerre, elle vous traversait vous-même. On a, comme moi, comme beaucoup de nos auditeurs, la chance de ne pas avoir vécu une guerre, On imagine ça comme un sujet diplomatique, militaire. C'est une tragédie. On sait qu'il y a des gens qui meurent, évidemment. Mmh. Mais je ne suis pas sûr que j'avais cette idée que la guerre, elle passait au milieu des gens et que vous-même, elle voulait, comment dire. On a presque à un moment l'impression que vous êtes en guerre avec vous-même, même parce qu'il y a une partie de vous qui aime la Russie, qui aime Moscou. Vous expliquez que vous avez toujours rêvé d'être à Moscou, que quand vous partez là-bas, vos copains d'école sont contents. Le journal de le journal d'Odessa où vous êtes né, où vous avez grandi, il y a un article pour c'est une fierté locale. Et d'un seul coup, vous êtes un peu coupé en deux.
Oh oui, oui. Enfin, tout de suite, même jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer à mes compatriotes que mon parcours, j'ai toujours un peu honte à leur dire que j'ai vécu ça. En 2019, je suis allé à Moscou. Tout de suite, il y a une notion de 2014, la Crimée, les Donbass. Et donc, je ne sais pas comment leur expliquer que c'était pas un choix politique, c'était un choix artistique. Et ce que je veux poser dans cette pièce, c'est vraiment d'expliquer que c'était juste un rêve d'enfant et les rêves peuvent être bêtes.
Mais vous le dites très bien parce que vous avez cette formule pendant le spectacle, vous dites que vous avez le choix à un moment entre être un ennemi ou un traître. C'est quand même...
Oui.
C'est quelque chose de terrible. C'est sûrement une des scènes les plus fortes du spectacle. Hein, vous vous retrouvez face à un miroir. Je pense que j'en dis pas trop. Je n'en dirai pas plus.
Vous spoilez pas.
Il y a la photo sur le site internet.
Ah
hein.
Oui.
mais on voit bien là, à ce moment-là, qu'il y a une opposition entre vous et vous.
Oui.
C'est difficile. Hein.
Oui, oui. C'est justement là, je me suis senti directement que je peux. J'ai choisi, il n'y a même pas une question de choix. Il y a juste ma ville qui se fait bombarder aussi par les drones. Il y a mon pays qui se fait attaquer. Et il n'y a même pas une question de choix. Il y a mon pays. Et donc, tous les Russes, ils sont devenus, juste par le fait qu'ils sont Russes, c'est comme ça. Ils sont devenus les ennemis. Mais en même temps, si je me pose cette question en miroir, qui suis-je dans cette histoire ? Je me souviens très bien de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait. Et même si... Il y en a forcément de mes compatriotes qui me voient comme un traître, forcément. Et je dis rien de contre eux, mais c'est comme ça. Mais c'est plutôt moi, en fait. Moi qui me vois comme ça. Et donc, j'ai dit cette phrase dans le spectacle. Je me suis mis dans une situation qui fait de moi un traître aux yeux des Ukrainiens et un ennemi aux yeux des Russes. Et le truc, c'est que j'ai jamais... pourquoi j'ai écrit ce texte ? Parce que j'ai jamais vu dans aucun livre que j'ai lu ces problématiques. Il y a des millions d'œuvres sur la guerre. Mais il y en a peu où, en tout cas moi j'ai pas vu, des sujets où il y a vraiment des personnes qui sont tiraillées entre les deux camps. Et donc voilà. Et
entre les deux cultures aussi, parce que vous êtes... je pense pas que je spoil grand chose, mais si j'en dis trop, vous me le dites. Il y a ce moment où aussi vous vous rendez compte que tous vos auteurs adorés, tous vos auteurs, les auteurs russes que vous aimez, ils sont aussi, ils sont très imprégnés d'Ukraine.
Oui.
Et vous donnez l'exemple de la mouette, c'est pour ça que je parlais de mouette tout au début, la mouette de Tchekhov. Elle est irriguée par l'histoire ukrainienne. Les personnages ont été en Ukraine, ils vivent.
En fait,
on voit à quel point si ces deux pays-là sont liés, sont intimement liés.
Oui. Toutes les villes qu'on cite dans la mouette, à part Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est que des villes ukrainiennes. La plupart en tout cas. Depuis le début de l'invasion russe de 2022 en Ukraine, on s'est rendu compte toute l'histoire qu'on apprenait dans les bouquins et c'était presque du mensonge de se dire qu'on est des peuples frères, On a toujours été ensemble avec les Russes. Mais en fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'en fait, toute cette histoire commune, c'était quelque chose de la colonisation et de l'occupation. Et même, et c'est une histoire très commune de ça, que les Russes s'approprient les auteurs, les artistes, les personnes très importantes dans l'histoire. Comme après, c'est très discutable. Enfin, qui sont été vraiment ces gens? Est-ce qu'on peut dire que Tchekhov, qui était d'origine ukrainienne, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en fait il était ukrainien? C'est juste à cause de la situation politique et historique qu'il n'a pas pu se réclamer comme un Ukrainien. Enfin, Dostoïevski, c'était la même chose. Enfin, Gogol, c'est ça. Par contre, ça, c'est un grand débat qui mène depuis des siècles. Enfin, est-ce que Gogol, il est ukrainien ou russe?
Mais est-ce que vous, c'est les questions que vous posiez avant? C'est la situation qui vous oblige à vous les poser? On sent à vous écouter que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de sensible. Oui. Et on a l'impression que ce qui vous désole le, enfin, pas le plus, c'est n'importe quoi, pardon. Ce qui, en tout cas, rajoute peut-être à votre douleur, c'est d'avoir dû être obligé de choisir un camp. Il y a une violence à devoir choisir un camp, non?
Oui, oui. Oui, parce que c'est cette notion que, en fait, c'était de l'occupation, ça a été arrivé depuis l'invasion de 2022. Et avant, c'était quelque chose, en fait, dans ma famille, dans les gens qui m'entouraient à Odessa, c'était quelque chose d'inséparable, quelque chose qui se continue, qui a toujours été ensemble, mais...
Vous avez... Oh, pardon.
Ouais, pour dire, ouais, avant le 2022, j'avais vraiment cette question de mon identité. Enfin, je parlais plus russe à Odessa que ukrainien. Enfin, je suis bilingue, comme nous tous en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire qu'on est russe. Et donc, j'avais toujours ce problème de l'identité. Est-ce que je suis russe ou ukrainien? Mais avec cette guerre... c'est devenu évident que je suis ukrainien.
On va écouter un peu de musique. Merci. Faces I've never met. Ebolis, c'était Ebolis Pupule et ça s'appelait Completely Alf. Mais oui, Pablo. C'est toujours... Oh bah disons, ça chante dur, hein. C'est toujours la relève. Et on est avec Victor Kirillov qui joue actuellement Maintenant, je ne l'écris plus qu'en français au Théâtre de Belleville jusqu'à la fin du mois de juin. Je redis, allez sur le site du Théâtre de Belleville pour voir les jours où vous pourrez le voir. J'en profite juste puisque j'ai pas eu la chance encore d'y aller, mais je suis sûr que c'est très bien. Le festival Circulation qui chaque année est consacré à la jeune photo européenne à Paris au 104. Cette année, l'invité d'honneur de cette 15e édition est la Lituanie. Et il y a un de vos compatriotes, Victor, l'Ukrainien, alors je vais sûrement très mal dire son nom, Artem Humilevski. Voilà, c'est un photographe ukrainien qui est en ce moment, qu'on peut aller voir. C'est une autre vision, un autre moyen de découvrir la culture ukrainienne. Vous êtes au théâtre actuellement, donc je le redis, au théâtre de Belleville. Vous avez écrit cette pièce, vous avez appris le français il y a 3 ans, si je ne m'abuse.
Oui, exactement.
Comment, je ne sais pas quelle question vous posez en premier, je vais commencer par celle-là. Allez, quand on joue, est-ce qu'on joue différemment quand on joue dans une autre langue? C'est une question... Parce que être sur scène, c'est dire un texte avec son corps, être une incarnation d'un texte. Est-ce que le fait de parler une autre langue, ça change votre manière de jouer? Ou est-ce que c'est une question
Oui, forcément. Pour moi...
Est-ce que vous avez dû tout réapprendre, par exemple?
Pas tout réapprendre, mais plutôt, c'est vraiment, tu crées une relation avec la langue qui est, à chaque fois, c'est très, très personnel. Enfin, et qu'est-ce que cette langue pour toi dans ta vie? Et on peut pas, sauf si tu, c'est un cas à part, si c'est très spécial, mais pour moi, c'était que d'abord, il faut que je maîtrise bien cette langue, faut que cette langue, elle vit dans ma vie, quoi. Enfin, qu'elle m'accompagne et qu'elle devienne quelque chose d'inséparable de moi. Et, les gens s'étonnent à chaque fois quand je dis que j'ai jamais appris cette langue avant de mon arrivée en France. Mais c'était vraiment ça. Enfin, c'était par une nécessité artistique de. Parce que c'est notre outil. C'est notre outil, la langue. C'est des comédiens. Et pour moi, c'était quelque chose d'inévitable d'apprendre cette langue.
Vous écrivez dans la note d'intention du spectacle que la langue française a été votre asile.
Exactement, parce que, comme vous savez, probablement en Ukraine, vu l'héritage soviétique, il y a beaucoup de régions où les gens parlent parfois plus russe qu'ukrainien, ou parfois ils parlent les deux langues en même temps, ils ne se rendent même pas compte de ça. Parce que les langues, elles se ressemblent un peu, c'est un peu comme portugais et espagnol. Et parfois, les gens, ils peuvent parler les deux langues en même temps. Mais il y a aussi des cas, c'est devenu plus rare après 2022, mais ça arrive quand même, dans les villes, notamment du sud-est de l'Ukraine, on parle russe, plus russe dans la vie quotidienne qu'ukrainien. Enfin, ça arrive, quoi. Et pour moi, c'était mon cas, justement. Et avec la guerre, tous les Ukrainiens ont choisi... Enfin, tous les Ukrainiens. Ça est devenu un peu comme la mode de la résistance contre les Russes, de ne plus parler russe, de se dire qu'en fait, on a notre propre culture et notre propre langue, et arrêter de nous
imposer la vôtre.
Oui.
C'est une libération, une première libération avant que le territoire soit libéré, c'est libéré.
Oui, de la pensée, de artistique, et etc. Mais moi, si je peux le dire, moi j'ai un peu une autre vision sur les langues. Pour moi, le russe, c'est pas la langue de Poutine, c'est pas la langue des soldats. C'est pour moi le russe, c'est la langue de ma mère. Pour moi, le russe, c'est la langue de ma famille. Pour moi, le russe, c'est la langue d'Odessa. Et les Russes, ce n'est pas leur propriété. C'est comme si tous les Français peuvent commencer à dire, si les Belges parlent français, du coup, la Belgique est à nous. Enfin, la Belgique est à nous. Et c'est complètement débile comme une vision du monde. Et pour moi, je refuse d'accepter que les Russes, ça appartient ça appartient au Chorus. Et justement, enfin, l'ukrainien, c'est une langue que j'aime aussi, que je parle moins vu juste ma situation familiale, et etc. Et, mais je les maîtrise parfaitement, je l'ai appris à l'école, j'ai passé les examens, mon bac en ukrainien, donc enfin, c'est quelque chose qui m'accompagne aussi dans ma vie. Mais c'est juste, avec cette guerre, enfin, c'est devenu tellement parfois violent, ces choix entre les deux langues, qu'avec mon exil, mon refuge que j'ai retrouvé en France, je préfère de ne pas choisir entre les deux. Mmh. Et je préfère parler français.
Dans votre pièce, vous interrogez sur le rôle de l'art. Dans votre spectacle, vous passez d'une réponse où l'art est tout pour le jeune adolescent. Et puis, petit à petit, vous êtes peut-être moins optimiste. Pourtant, avec cette pièce, qui pour moi est de l'art, vous semblez vouloir dire aux Français d'être lucides, de nous ouvrir les yeux. Donc l'art sert à quelque chose, au moins en tout cas à parler aux autres. C'est une manière de leur dire de réagir.
Oui, oui. Enfin, pour moi, l'art, c'est toujours quelque chose d'engagé à chaque fois. L'art, pour moi, c'est quelque chose qui reflète la vie, la vie contemporaine, quoi. Et pour moi, l'art, c'est quelque chose, à chaque fois, de partage, d'opinion, de point de vue sur certaines choses de la vie. Et, mais en tout cas, ce que je pose dans cette pièce, enfin, pour moi, c'était mon rêve de changer le monde, parce que pour moi, l'art, c'était quelque chose qui soigne l'âme, qui peut rendre les personnes plus belles, et, etc. Et aujourd'hui, et après, avec ma séparation de la Russie, j'ai un peu abandonné cette idée, parce que j'ai vu tellement des artistes en Russie, à Moscou. J'en ai vu tellement, qui étaient des artistes incroyables. Mais sauf que dans un an après, ils ont fait Boutcha et Mariupol. Et cette nation qui a créé tant de belles choses, comment cette nation peut faire presque des génocides, un génocide, quoi. Ben, pour moi, c'était un bouleversement et même, enfin, mon regard sur l'art, ça a changé. Et depuis, je sais pas trop si l'art sert à quelque chose.
Mais c'est votre vie quand même.
Oui, enfin, j'imagine pas ma vie sans faire ça.
Vous pensez qu'un jour vous pourrez rejouer du Tchekhov?
Pas dans l'avenir prochain.
En français, même en français?
Oui, ça change pas grand-chose.
Non, mais je sais pas.
C'est quand même. Là, c'est comme avec une rupture avec la femme de notre vie, quoi.
Ouais, vous avez parlé de rupture tout à l'heure. Hein.
C'est comme
une histoire d'amour.
Oui, c'est.
C'est douloureux en tout cas. On sent que c'est douloureux et on va pas insister parce qu'on n'est pas là pour ça. Au tout début de votre pièce, vous posez cette question : à quoi sert de parler ? Je vous cite de mémoire, vous vous demandez à quoi ça sert de parler. Oui. Depuis vendredi soir, est-ce que vous avez un début de réponse?
À quoi ça sert de parler de
toute cette histoire? Je vous demande pas si vous avez, quelle est cette réponse, mais est-ce que vous avez un début de réponse? Est-ce que...
Ben, je crois que si on parle, ça existe. Et si on ne parle pas, ça n'existe pas.
Très bien. Allez-y.
Ouais, il faut quand même en parler. Il faut parler de tout ce qui se passe, ce qui nous bouleverse, ce qui nous enlève le sommeil, quoi. Il faut en parler. Sinon,
on tombe fou, on meurt.
Oui.
D'ailleurs, votre spectacle se termine par une ode à la vie.
Oui.
On pourrait dire encore beaucoup de choses, vous citez, mais malheureusement, je vois le temps qui passe, on aurait pu parler de Guillaume et les garçons à table, de Guillaume Gallienne, de l'idée du documentaire animalique. Il n'y a pas un thème aujourd'hui sur les animaux, mais il y a quelque chose de très beau avec les animaux dans votre spectacle. On ne va rien dire de plus. On va dire que c'est presque du stand-up, parce qu'il y a de l'humour aussi, et que vous avez beaucoup d'humour. On va redire aussi, pour terminer, que ça s'appelle Maintenant, je n'écris plus qu'en français. C'est au théâtre de Belleville jusqu'à la fin du mois de juin, que vous appelez Victor Kirillov. Et on va vous remercier d'être passé par notre studio, Victor.
Merci infiniment à vous.
Merci à vous. Voilà, c'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Toutes celles des émissions précédentes, des saisons précédentes, je ne sais plus combien il y en a eu, donc j'ai un chiffre là, mais je crois qu'il est faux. La Relève, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et à 19h, c'est la matinale de Radio Campus Paris. Bonne soirée, à bientôt.